Maurice Renard, Les enquêtes du commissaire Jérôme, L'affaire de la Maison Bleue. Cet hiver-là, comme tous les hivers, mon ami Pierre Calmont, le gentleman farmer de Bonnel, m'avait invité à passer une huitaine de jours chez lui pour chasser le sanglier. Et un jour que la chasse m'avait entraîné loin de l'enceinte d'attaque, je me retrouvais seul à la tombée de la nuit et je m'orientais pour regagner les tonnelles. Et après une demi-heure de marche, je rencontrais le garde de Pierre qui soufflait dans une corne pour rallier les chiens. Alors il m'indiqua le plus court chemin et j'atteignis bientôt la route nationale qui traverse la forêt de part en part. Les Bonnels n'étaient plus qu'à une demi-lieue. Mais j'étais là, il faisait très froid, et apercevant l'auberge de la Maison Bleue, j'y entrai pour boire quelque chose de chaud. La nuit était venue tout à fait. L'auberge isolée, en plein bois, au bord de la route, ne m'était pas inconnue. Pierre, comme nous passions par là, m'avait dit la veille que les tenanciers, un ménage sans enfants, faisaient de mauvaises affaires et qu'on allait les vendre. J'étais entré par la porte vitrée du débit de boissons et une aigre voix de femme cria « Antoine !» Alors, donc Antoine, allume ! Alors, l'homme alluma la lampe suspendue au plafond et tandis que sa femme faisait chauffer de l'eau pour mon grog, Locheo, je me rappelle très bien son nom, ne put se retenir de me raconter ses malheurs. On avait, disait-il, bien mitigé en lui vendant cette auberge où, autant dire, personne ne s'arrêtait depuis l'expansion de l'automobile. Et à cette heure, c'était la ruine. C'était la misère, et tout. Or, il advint que, par miracle, trois clients rentrèrent dans le débit pendant que je m'y installais. Les deux premiers arrivèrent ensemble. Un matelot de la flotte qui, sa permission expirée, regagnait Cherbourg, et allait rendre le terrain, prendre le train à la station, et un ouvrier agricole polonais qui cherchait du travail. Ils s'étaient rencontrés à un carrefour et ils avaient fait route de compagnie. Locheo se mêla à leur conversation. Le matelot était assez gai, mais sa jeune figure irrégulière ne me plaisait pas plus que la face barbue du Polonais. Bon vieux, oh, j'aurais bien pris le quart, mais je vois le fond de mon porte-monnaie. Il expliqua qu'il avait passé sa permission chez une personne qui lui avait appris son fric. Alors, il avait des dettes de tous les côtés. Seulement, il fallait voir cette Mireille. Oh, mon Dieu! C'en est une qui se pose un peu là. Je vais m'en tirer sa photo. Et il tira de son sac le portrait devant lequel tout le monde s'extasia poliment. Puis il se remit en grand place et le nœud qu'il fit Alors, au cordon de son sac, attira l'attention du Polonais. Oh, voilà un nœud que je ne connaissais pas, dit-il. Et pourtant, j'en connais une douzaine. Vous autres marins, ah, les nœuds, c'est votre spécialité. Et ils se mirent à nouer une ficelle de plusieurs manières, ce qui provoqua l'admiration des époux louchés haut. Et là-dessus entra le troisième client, un monsieur vêtu d'une belle pelisse de fourrure, chaussé de bottes hautes, lacées, du modèle aviateur, et qui semblait exténué. Ah, ma voiture est en panne au bord de la route, à 200 mètres d'ici. Demain, je téléphonerai à un mécanicien. Mais ce soir, je suis fatigué. Donnez-moi une chambre. N'est-ce pas? Mangerai pas, je ne veux que dormir. J'ai oublié dans ma voiture. Que je suis étourdi. J'ai oublié dans ma voiture un tube de comprimé soporifique. Ça, tant pis. Oh. Si j'en ai besoin cette nuit, j'irai le chercher. Laissez-vous les clés sur la porte. L'Ochéo lui fit voir l'endroit où il accrochait la clé. Et l'automobiliste refusa l'offre qu'on lui faisait de pousser sa voiture jusqu'au garage de l'auberge. Non, il tira sa carte d'un portefeuille et commit ainsi la grave imprudence de laisser voir un épais matelas de billets de banque. Je quittai l'auberge le dernier. Et l'homme à la pelisse était monté dans sa chambre, le matelot et le polonais avaient repris leur route. Le lendemain, très tôt, Pierre va me retrouver au lit et m'annonça qu'un crime venait d'être commis non loin de la Maison Bleue. On avait découvert à l'aube, près de sa voiture, la tempe trouée d'une balle. L'homme, l'hôte des Loucheos, par le matin glacial, nous sautâmes dans l'auto pour nous rendre à la Maison Bleue. Le mort et son cabriolet étaient entourés d'un attroupement, paysans, chauffeurs, gendarmes, magistrats, policiers. Le célèbre commissaire Jérôme était là, escorté de son secrétaire Gaillard. Il questionnait les Lanchéots. La femme, en m'apercevant, s'écria: Oh, tenez, ce monsieur-là vous le dira mieux que nous. Comme moi, il était présent. Notre client avait l'air tout chose, malade, embêté. Et vraiment esquinté, dégoûté de tout. Alors il a dit qu'il viendrait chercher son médicament pour dormir. Si on avait besoin, eh bien, il est venu. Et alors, ou bien il s'est tué, ou bien on l'a tué. Il y avait chez nous deux hommes, monsieur vous le dira, qui ont vu son portefeuille bien garni. Jérôme dont je voyais pour la première fois le mâle visage, les yeux clairs et la barbiche blanche, regardait le cadavre étendu, correctement habillé de sa pelisse boutonnée au haut en bas. Les bottes bien lacées, sa main droite sur l'herbe gelée tenait un revolver. Et vous n'avez rien entendu ? Demanda Jérôme. Il a passé les poids lourds toute la nuit, dit Loucheau, l'air profondément affecté. Il faut croire qu'on dormait quand ce monsieur a descendu pour sortir. Chef, dit le jeune gaillard, la pelisse du mort est croisée à l'envers. Le côté gauche sous le droit. Était-il donc gaucher ? Pourtant le revolver est dans la main droite. Oh ! Ah bon ! Murmura Jérôme avec un sourire susceptible. Oh ! Mais voilà Monsieur Gaillard qui se lance. Et qu'est-ce que Monsieur Gaillard pense des nœuds, des bottes ? Mon Dieu ! Dit le secrétaire fort embarrassé. Regardez-les de près, ces bottes, ces nœuds. Ce sont deux nœuds différents. Donc, ce n'est pas la même main qui les a faits. Mille expériences m'ont enseigné qu'on fait toujours le nœud, même nœud, de la même façon à chacune de ses chaussures. Donc, deux personnes ont rechaussé ce mort. Ah, ce serait donc ce marin et le polonais, dit la femme Moucheau. Oh, ils savent faire un tas de nœuds. Quant à la pelisse, croisée à l'envers, continua Jérôme, cela provient, révèle tout simplement et pleinement que c'est une femme qui l'a boutonnée, puisque les vêtements de femme se croisent de la sorte. On a rhabillé cet homme pour faire croire qu'il était venu ici. C'est donc à l'auberge que les époux Loucheau ont effectué et volé, exécuté avant de le transporter où nous le voyons. Ce qui suivit ce curieux raisonnement ne fut que de montrer l'exactitude. Mais ne vaut pas la peine d'être rapporté.